Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Transition professionnelle.
Fabienne Broucaret, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé il y a quelques mois My Happy Job, un webzine, un magazine en ligne qui veut, entre autres, nous redonner le sourire lorsqu'on recherche du travail. Parce que bon, c'est pas forcément une tannée. Pourquoi s'être lancé dans cette quête du bonheur au travail? Parce qu'au départ, vous êtes journaliste et auteur de livres.
Tout à fait. Alors, je suis moi-même une jeune reconvertie. En fait, l'année dernière, je me suis posé la question par rapport aux évolutions du métier du journalisme. Suite à une réorganisation interne, j'ai quitté mon dernier travail en mai en me posant une question: est-ce que je me reconvertis ou pas et qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Je pense que c'est ce qui m'a guidée du coup dans la création de My Happy Job, avec l'envie d'aider les gens, de continuer à raconter des histoires, de continuer à donner des conseils très pratiques, à faire des interviews et beaucoup de rencontres, mais du coup au service des gens, des salariés mais aussi des RH, pour donner des astuces, apporter des témoignages pour être épanoui dans son travail au quotidien, parce qu'on y passe tellement de temps, donc autant que ce soit le plus agréable possible et autant aussi aider les gens à trouver non seulement leur voie, mais aussi comment ils veulent exercer leur métier. Parce qu'il y a eu mille et une manières de faire le même métier et il y a plein de sources d'épanouissement et de plaisir au quotidien sur lesquelles on peut tendre selon la personnalité de chacun. Donc le tout étant d'essayer et d'expérimenter et de trouver des nouvelles voies.
Justement, voilà. Donc parce que vous vous adressez aussi bien aux salariés qu'aux entrepreneurs.
Tout à fait, c'est l'idée. En fait, on s'adresse autant à des personnes qui vont être cadres, employés, qu'à des entrepreneurs, à des gens qui sont en reconversion, mais aussi à des DRH, à des chief happiness officers, les responsables du bonheur au travail.
Rappelez-nous qu'est-ce que c'est, parce que c'est un terme un petit peu nouveau.
Tout à fait, en fait. Alors, le terme est nouveau, mais des gens exercent déjà cette fonction depuis plusieurs années. Ça vient notamment des startups aux États-Unis. Et l'idée, c'est d'avoir en interne, dans l'entreprise, quelqu'un qui est responsable de l'épanouissement et du bonheur des salariés. Alors, en français, le terme de bonheur peut faire un peu peur. Le terme de happiness en anglais passe beaucoup mieux. L'idée, c'était pas de dire aux gens qu'il y a une injonction à être heureux et avoir le sourire et la banane tous les jours au bureau, mais de se dire comment on peut être heureux et épanoui dans son travail et qu'est-ce que l'entreprise peut faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi chacun. Donc les Chief Happiness Officers, c'est un peu les chefs d'orchestre qui vont, alors ne les réduisez surtout pas au rôle de chef de l'apéro, ils vont pas apprécier. Leur but, c'est certes d'organiser des événements en interne, mais aussi d'être à l'écoute de les salariés, de voir comment on peut aider à plus de reconnaissance en interne, quels sont les besoins des équipes, comment mieux travailler ensemble, comment créer des nouveaux liens, et du coup être un peu le facilitateur entre la direction et les salariés, pour qu'il y ait un vrai dialogue et que du coup tout le monde essaye de mettre du sien, d'apporter sa touche pour faire du quotidien quelque chose de souriant en effet, mais aussi d'écouter les problèmes, de les anticiper et d'aider chacun à être au mieux dans sa mission. Donc ça passe par un peu de com interne, un peu de RH et beaucoup d'écoute et d'empathie envers les autres.
Oui, parce qu'obtenir un CDI, enfin même un CDD, lancer sa propre boîte, c'est bien. Ben, on est content aujourd'hui quand on a un boulot, mais ce n'est pas suffisant. On ne veut plus passer à côté du bien-être. Quels sont les principaux thèmes qui sont demandés, plébiscités, disons, par les gens qui recherchent du boulot, qui arrivent dans une boîte?
Alors, je dirais qu'il y a plusieurs échelons. Déjà, ça dépend de d'où on vient, de son âge aussi, de qu'est-ce qu'on a fait avant et pourquoi on a changé de travail, est-ce que c'était voulu ou pas, et est-ce qu'on a envie d'une reconversion totale ou partielle, ce qui se fait de plus en plus. Je dirais, ce qu'il y a besoin, selon l'expérience de chacun, ça va être aussi déjà de la quête de sens. Pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et comment je vais l'exercer? Dans quelle entreprise? C'est-à-dire qu'on a une mission chacun selon nos postes, mais ça va être qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma contribution? Du coup, beaucoup de personnes sont en quête de reconnaissance. Ce qui est intéressant, c'est que les managers au quotidien ont l'impression de faire des feedbacks, ont l'impression de donner cette reconnaissance. Et quand vous écoutez les salariés, ils n'ont pas l'impression d'être reconnus forcément à leur juste valeur. Donc quand on intègre une entreprise, on attend déjà de trouver sa place, d'être reconnu à sa juste valeur. Et ensuite, l'ambiance avec les collègues compte énormément pour les gens. On vient travailler, que ce soit aussi avec parfois du travail à distance, mais on est dans une équipe. Du coup, il y a ce côté ambiance et relationnel, convivialité qui est essentiel. Et je dirais aussi, après, c'est qu'est-ce que chacun a envie d'y mettre. Il y a des gens, ça va être la conciliation vie pro-perso va être très importante pour moi. D'autres, ça va être non, j'ai besoin d'être stimulé, de ne pas avoir de routine. Donc, il y a, je dirais, à profiter de la recherche d'emploi et de la prise d'un nouveau poste pour se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans mon ancien poste que j'aimerais retrouver? Qu'est-ce que, au contraire, je ne veux plus subir? 1h15 dans les transports, non, je ne veux plus. Donc voilà, chacun de mettre un peu une échelle et de se dire, il y aura des compromis à faire, mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que j'aimerais Et on se rend compte qu'une fois qu'on a fait ce travail, bah, c'est beaucoup plus aussi facile de se diriger et peut-être pas forcément de se reconvertir totalement, mais de faire des aménagements qui vont nous permettre d'être plus, tout simplement plus heureux au quotidien.
Mais c'est aussi un problème de génération, non ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la génération Z qui arrive tout doucement là sur le marché du travail est beaucoup plus exigeante que nous. C'est-à-dire que trentenaires, quadras, quinquas ont commencé à se poser des questions sur la quête de sens vers la crise de la quarantaine, se dire bon, j'ai donné 10-15 ans, maintenant j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'éclate et qui me plaît, ou d'avoir plus de temps pour moi et de ne pas donner ma vie au travail. Maintenant, les nouvelles générations arrivent avec ces demandes. C'est-à-dire que vous allez avoir des générations, notamment la génération Z, qui va vous dire bah, le travail c'est bien, mais moi en même temps, je ne vais pas travailler jusqu'à 23h vendredi, donc comptez pas sur moi pour tout donner non plus à mon travail. Mais d'un autre côté, ça va être des gens qui vont être très impliqués, mais qui vont demander justement cette quête de sens, qui vont pas se limiter, le salaire est important pour tout le monde, mais qui vont pas se limiter à ça et qui vont être beaucoup plus exigeants en termes de conciliation vie pro, en termes de sens donné au travail, de l'intérêt des missions, et qui vont peut-être pas prendre le premier poste donné en disant bon bah j'ai de la chance d'avoir le boulot, parce que c'est aussi des générations qui ont vu leurs parents galérer, qui ont vu leurs parents se faire licencier, qui ont vu le chômage de masse et qui se disent qui ont pas forcément les mêmes réflexions à l'entrée dans la vie professionnelle.
Alors justement, pour cette nouvelle génération, on a l'image des géants comme Facebook, Google, YouTube, qui mettent en place des salles de repos, des cours de yoga. Enfin, ça fait un petit peu, j'allais dire, rêver. Est-ce qu'on doit avoir tendance à s'orienter vers ce genre de structure qui propose bah, du rêve, ou attention, ça peut être peut-être un écran de fumée?
Alors je dirais qu'il y a tout. Alors il y a pas mal d'articles, et notamment il y a un bouquin d'une jeune femme qui témoigne justement de la vie en start-up qui est loin d'être rose. Donc je pense qu'il faut pas idéaliser la vie dans des start-up. C'est aussi des boîtes qui vont vous demander beaucoup en termes d'investissement, en termes de temps. Donc du coup, faut pas penser que c'est le travail idéal et qu'on passe sa journée en salle de sieste et qu'on vous demande pas des comptes ou quoi que ce soit. Par contre, c'est des entreprises pour certaines qui ont réussi à mettre des pratiques, notamment managériales, très intéressantes, qui font confiance aux gens, qui vont leur apporter de l'autonomie. On va être plutôt en mode gestion projet, on va casser les silos entre services. Donc du coup, tout ça est très attrayant. C'est des entreprises où on peut évoluer, où il est inconcevable que vous restiez 3 ans ou 5 ans exactement au même niveau, au même poste. Donc tout ça, je pense que c'est très intéressant
et
très attractif,
ouais.
Tout à fait. Mais à l'inverse, il y a des grands groupes qui y arrivent aussi très bien, qui comprennent que la rémunération et les avantages sociaux, entre guillemets, ne font pas tout. Et du coup, je dirais que il y a, peu importe le domaine d'activité ou la taille de l'entreprise, c'est plutôt à la fois la volonté de la direction et des managers qui va compter pour justement donner la confiance et l'autonomie aux gens et de réussir à trouver ce pourquoi ils sont le meilleur et comment on peut en effet à la fois qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient performants pour l'entreprise. Donc je dirais que oui, il y a l'effet start-up, mais l'effet start-up a eu le mérite de donner un petit peu un coup de pied, de casser les codes dans le monde du travail, et donc a aussi inspiré des entreprises beaucoup plus grandes. Et pour vous donner juste un exemple, dans les entreprises qui aident au bien-être des salariés, je pense à un centre d'appel. Personne ne travaille dans un centre d'appel par vocation et se dit à 14 ans, youpi, j'ai envie de répondre au téléphone toute la journée. Mais par exemple, une entreprise qui a décidé que pour la gestion des plannings, c'est des entreprises qui ont des besoins très importants en termes d'horaires, qui doivent couvrir des plages horaires très importantes et contraignantes matin et soir. Et du coup, il existe entre les salariés une bourse qui permet d'échanger, telle semaine je ne peux pas assurer mon matin dès 5h du matin, et ben un tel va me remplacer, et du coup entre les salariés s'instaure de l'entraide et de la solidarité pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent aux mêmes horaires, pour pouvoir aider une maman en solo qui ne peut pas aller chercher son fils ou sa fille ce jour-là, ou qui doit aller chez le médecin. Et du coup, des entreprises comme ça qui a priori ne font pas rêver, et ben par des solutions managériales intéressantes et innovantes, arrivent à aider les gens à mieux concilier vie pro-perso, et du coup à faire que les salariés non seulement viennent, mais restent, et du coup à fidéliser sur des postes qui auparavant avaient un turnover assez important.
Lorsqu'on se présente à un entretien d'embauche, on nous demande tout de suite, en général quand même, nos compétences. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre d'emblée plutôt nos qualités d'être humain sur la table ?
Alors c'est très intéressant, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre les hard skills qui sont vos diplômes, à la fois votre expérience, mais tout ce qui va être un peu technique, c'est-à-dire vous savez utiliser tel logiciel, on coche la case, et les soft skills qui vont être plutôt les savoir-être, et qui sont justement de plus en plus recherchés par les entreprises, parce que par exemple la robotisation entraîne que beaucoup de métiers vont être fait en partie ou totalement par des robots qui sont capables de gérer énormément de choses techniques, mais qui ne vont pas être capables d'être forcément dans justement le savoir-être et dans le relationnel aux autres. Donc ça va être à la fois comment vous parlez en public, comment est-ce que vous faites preuve d'empathie, de bienveillance, est-ce que en effet, enfin ce que vous appelez vos qualités. Donc du coup c'est très intéressant et c'est des choses vraiment à mettre en avant, mais je dirais pas n'importe comment, à mettre en avant en incarnant. C'est-à-dire j'ai fait preuve de, je sais pas, de, j'ai réussi à bien travailler en équipe par exemple dans tel projet. Et donc vous allez le raconter avec un exemple précis. Et c'est ça qui va parler à l'entreprise. C'est pas juste de dire ah oui je suis empathique et bienveillant, c'est non, voilà concrètement comment je l'exerçais, que ce soit dans votre cadre professionnel ou à côté, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des activités dans des associations, être bénévole, adorer le sport, avoir fait des choses en parallèle de votre travail qui vous ont nourri et permis aussi de grandir et que vous allez pouvoir exploiter dans votre nouveau travail. Et c'est tout ça aussi l'idée de se dire qu'on est épanoui dans son travail, parce que c'est être soi, c'est pas mettre une casquette et un masque quand on arrive au travail, mais non, c'est utiliser le meilleur de soi-même pour son travail. Donc du coup, oui, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à les mettre en avant et en racontant des histoires et en essayant de les incarner au maximum. Et du coup, c'est ça aussi qui va séduire l'employeur qu'on a en face.
Bon, bah osez alors. Et pour terminer, Fabienne Brocaret, sur My Happy Job, donc vous proposez des actualités, des témoignages aussi, et des informations donc, sur la carrière, la reconversion. Dites-nous alors vos trois conseils pour booster sa recherche d'emploi tout en étant positif, parce que bon, des fois, c'est un petit peu difficile, et regagner un peu de confiance en soi.
Alors je dirais déjà prendre du temps, c'est-à-dire que selon moi, quand on est au chômage, on dit tout de suite bon bah qu'est-ce que je vais prendre comme travail, on commence à regarder plein de choses, à répondre à des annonces, un peu en fonçant tête baissée, par peur, ce qui est normal, hein, on a peur de l'avenir, l'incertitude, surtout dans le monde du travail actuel, mais je dirais que c'est important de faire une pause, déjà pour soi, mais aussi pour revenir à ses envies et à ses besoins. Et quand je parlais tout à l'heure de faire la liste un petit peu de qu'est-ce qu'on aimait bien dans son ancien travail, qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre, tout simplement de prendre ce temps pour se poser ces questions-là, de faire sa petite liste qui va nous aiguiller peut-être, alors ça va peut-être être garder le même travail mais aller dans un autre secteur d'activité, privilégier un employeur lors de votre entretien qui va vous demander est-ce que pour vous par exemple vous souhaitez faire du télétravail, est-ce que c'est dans la culture de l'entreprise. Donc j'irais bien prendre le temps d'être clair sur ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, c'est souvent plus facile, ça vient plus facilement, mais de prendre ce temps-là, déjà la réflexion. Ensuite prenez votre période de chômage aussi comme quelque chose où vous pouvez apprendre des choses. Il n'y a pas que l'école qui compte, il n'y a pas que le diplôme qui compte et toutes les formations que vous pouvez faire sont importantes, mais là encore, ne visez pas que en vous disant tout de suite mon métier c'est dans tel domaine, donc il faut une formation qui colle absolument. Voyez un peu plus large et dites-vous tiens, est-ce que je fais de la com traditionnelle, les réseaux sociaux où j'en suis, est-ce que j'aurais intérêt à apprendre des choses en plus, à me former sur ce côté-là. Donc voyez un petit peu comment.
Élargir sans forcément se reconvertir.
Tout à fait. Et d'aller faire des nouvelles compétences. Et là encore, voyez pas la formation comme quelque chose. Non, mais moi, j'ai une vie de famille, je peux pas m'investir 3 semaines à temps plein dans une formation, j'ai pas les moyens. Mais aujourd'hui, il existe les MOOC, il existe plein de choses en ligne super intéressantes où vous pouvez aller à votre rythme et acquérir. Les entreprises là aussi sont de plus en plus intéressées par ça parce que ça vous donne concrètement des compétences. Vous pouvez valider ou non par un certificat à la fin, mais du coup les 3/4 sont, de ces formations là en ligne sont gratuites et c'est un vrai plus, ça va vous stimuler. Et ça peut être par exemple vous vous demandez est-ce que vous voulez être entrepreneur, il y a des formations sur l'entrepreneuriat dans l'environnement social, il y a plein de choses, mais sur l'onologie, enfin ouvrez-vous un petit peu et n'hésitez pas à aller vous former en ligne de manière un petit peu innovante. Et après mon dernier conseil ce serait je dirais de prendre le doser. Voilà, de pas vous fermer les portes et pas de vous limiter, parce qu'on a des croyances en disant ce poste là ça va pas être pour moi. Et là je dirais que je vais être sur un domaine qui me tient particulièrement à cœur, notamment les femmes, c'est à dire qu'il y a des études qui ont montré que les femmes vont attendre de cocher toutes les cases avant de postuler, parce qu'on va dire ah non là j'ai pas tant d'années d'expérience, j'en ai c'est 2 de moins, ça va pas aller, et vont du coup pas postuler, alors que aux mêmes compétences un homme qui ne coche pas forcément toutes les cases va oser y aller. Du coup je dirais à tout le monde, mais en priorité aussi aux femmes, d'oser et de vous dire il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les soft skills, vous-même, tout ça va compter, et il n'y a pas non plus que le CV pur et dur. Donc vous fermez pas des portes, ça peut être des fois de solliciter aussi des gens, c'est-à-dire quand je dis d'oser, c'est non seulement de répondre, mais LinkedIn est un fabuleux outil en disant j'hésite à me reconvertir, un tel fait le métier que je voudrais faire, contactez-le, s'il habite dans votre ville, prenez un verre et échangez sur son parcours. Donc voilà, osez, ouvrez-vous, et du coup ça crée des opportunités, et après ça crée des belles énergies.
Eh ben merci pour tous ces conseils. Merci Fabienne Brocaret.
Merci à vous.
Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle.